Entre sa toundra hostile, le contrôle obsessionnel de son image et son statut d'acteur majeur de la guerre froide, l'ex-URSS et ses alliés ont véhiculé de nombreux imaginaires. Essais réels ou fantasmés d'armes expérimentales en plein Oural, variantes du Bigfoot observé dans la nature et autres animaux fantastiques, le mystique s'invite souvent dans les récits que l'on a produits autour de l'Union soviétique. Le conflit qui l'opposera pendant des décennies aux États-Unis sera le vecteur d'avancées scientifiques majeures, mais également de quelques expériences dont la visée s'apparente davantage à de la communication. Entre une mystique bulgare contactée par les hauts dignitaires du régime communiste pour ses visions et une médium russe capable de déplacer des objets par la pensée, l'ancien bloc Est fascine autant qu'il interroge, et c'est ce dont nous allons vous parler ce soir.
Je suis Mathias.
Je suis Charles.
Bienvenue dans le Bureau des Mystères. Les incroyables prédictions de Baba Vanga. On la surnomme la Nostradamus des Balkans. Lorsqu'elle s'est éteinte en 1996, la mystique aveugle Baba Vanga aurait laissé derrière elle de nombreuses prophéties, et certaines d'entre elles, terribles, se seraient parfois produites. Alors, en ce début d'année 2020, j'avais envie de savoir ce qui allait nous arriver au cours de ces 365 jours de 2020. Alors j'ai cherché un petit peu des informations, voir s'il y avait des personnes qui avaient prédit l'avenir. Eh bien, figure-toi, mon cher Charles, que j'ai trouvé quelqu'un qui aurait prédit l'avenir.
Et qui n'est pas Paco Rabanne.
Baba Vanga. Et qui n'est pas, pardon ?
Qui n'est pas Paco Rabanne.
Non, qui n'est pas Paco Rabanne et qui n'est pas non plus une de ces médiums qu'on voit à la télévision. Je regardais la dernière fois une émission de divertissement dans laquelle une voyante voyait l'avenir dans le couscous, figure-toi. Elle écartait les graines comme ça et elle finissait par voir l'avenir, c'était assez fascinant. Non, cette fois-ci, il n'est pas question de ça, il est question de Baba Vanga. Baba Vanga, dont je vais te raconter, dont je vais vous raconter, chers auditeurs, l'histoire. Une histoire un petit peu étrange, comme vous allez le voir. Vangelia Pandeva Dimitrova, dit Vanga, née en 1911 à Strumica, en Macédoine. Née prématurée, elle survit et devient une enfant comme les autres. Selon sa légende, qui est entretenue aujourd'hui par ceux qui l'ont côtoyée, sa vie bascule à l'âge de 12 ans lorsqu'elle est emportée par un tourbillon. Elle en ressort blessée et commence dès lors à perdre progressivement la vue. Mais au fur et à mesure que les ombres obscurcissent ses yeux, une puissance mystique commence à grandir en elle. 7 ans après la tornade, la jeune Vangelia est complètement aveugle. Mais entre-temps, l'adolescente a développé une toute autre forme de vision. En 1941, les troupes nazies entrent en Yougoslavie. Vangelia a 30 ans, et ses mystérieux pouvoirs commencent à se manifester de manière plus puissante. Un cavalier lumineux lui apparaît en vision, et lui révèle le sort de plusieurs hommes de son visage. Ses prédictions s'avéreront exactes, et Vangelia deviendra, à partir de ce moment-là, connue comme un oracle. Les 20 années qui suivent, Vanga continue de recevoir des visites d'êtres surnaturels qui lui font part du destin de certaines personnes, et qui lui transmettent, parfois, des prophéties. À partir des années 60, Vanga devient célèbre à travers toute l'Europe de l'Est. La rumeur voudrait que Léonid Brejnev, le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, soit régulièrement venu la voir en personne en Bulgarie. Ses liens avec l'URSS et son âge grandissant lui donneront le surnom de Baba Vanga, ce qui veut dire la vieille Vanga ou Mamie Vanga en russe. Nous sommes alors en pleine guerre froide, et tout est bon à prendre pour obtenir l'avantage sur le camp adverse. Même les projets les plus surprenants. Charles, tu nous as par exemple parlé à plusieurs reprises des expériences secrètes de la CIA, notamment des projets MK-Ultra et MK-Offen.
Oui.
Eh bien, les Soviétiques, comme tu t'en doutes, ont lancé des recherches similaires de leur côté.
Évidemment.
Alors, ils ont essayé, visiblement, de comprendre les mystérieux pouvoirs de Baba Vanga. Les autorités bulgares, alliées de l'URSS, ont créé en 1967 un institut de, je cite, suggestologie, rien que pour elles. À partir de là, Vanga commence à effectuer des consultations de façon très encadrée. On lui aménage une résidence à Roupité, un village situé près de celui où elle vivait à Petrich jusqu'alors. Et tous les jours, la vieille dame est conduite en voiture dans cet endroit extrêmement isolé qui se trouve au cœur des montagnes de Bulgarie. Un personnel d'une dizaine de personnes lui est affecté et s'occupe d'organiser les consultations. Alors, comme on peut s'en douter en voyant ce dispositif, les consultations sont évidemment devenues payantes. Il faut s'acquitter d'une taxe pour voir celle qu'on appelle désormais la Pythie de Roupité. Une référence à la Pythie, le nom qu'on donnait aux oracles du temple d'Apollon de Delphes dans l'Antiquité. Après la chute de l'URSS, Baba Vanga devient une véritable star. Jusqu'alors uniquement connue dans l'Union soviétique, elle commence à captiver la presse internationale. Le New York Times se rend même à Roupité en 1995 et rapporte qu'elle y est adorée comme une sainte par de nombreux disciples. Certains militent même pour qu'elle soit canonisée de son vivant. Elle obtiendra finalement une église à sa gloire, financée par ses adorateurs, avant de mourir en 1996 à l'âge de 85 ans. Elle est aujourd'hui enterrée à Roupité, et sa maison de Petrich est devenue un musée. Si Baba Vanga nous a quittés il y a déjà plus de 20 ans, elle est encore très présente. Ses mystérieuses prédictions refont surface chaque année. Et c'est justement ce qui m'intéressait, moi, je voulais savoir ce qu'elle avait prédit pour 2020. Alors, selon plusieurs sites obscurs qui tirent leurs informations dont on ne sait trop où, Baba Vanga aurait prédit beaucoup de malheurs pour 2020. Alors, on va commencer par côté société. Si tu le veux bien, attention, c'est déprimant. Un effondrement de l'économie européenne, une tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine, une mystérieuse maladie qui frapperait Donald Trump, et alors là, attention, petit frisson, cette maladie aurait pour symptômes des nausées, des lésions cérébrales et une perte d'audition. Ce qui me rappelle la crise avec les diplomates à Cuba et les attaques acoustiques.
Ah,
ah oui. Trump va-t-il être victime d'attaques acoustiques? On ne sait pas. En tout cas, Baba Vanga aurait prédit une mystérieuse maladie qui le frapperait. Et elle avait prévu le Brexit aussi, mais ça a été confirmé depuis, évidemment. Il y aurait aussi des catastrophes naturelles en 2020. Des tremblements de terre importants, un grand tsunami en Asie, qui serait similaire à celui de 2004, et qui frapperait le Pakistan, l'Inde, une partie de la Chine, le Japon, l'Indonésie, et même un petit peu l'Alaska, et qui ferait 400 morts. La Russie serait également frappée par une météorite géante. Alors, ça fait beaucoup de choses. Est-ce qu'on doit avoir peur? Eh bien, j'ai envie de te dire, pour commencer, peut-être. Car Baba Vanga aurait vu juste à de multiples reprises dans le passé. Il se dit qu'elle aurait vu la chute de l'URSS déjà, mais aussi la catastrophe de Tchernobyl, la date de la mort de Staline, qu'elle aurait prédit les attaques du 11 septembre et les tensions en Corée du Nord, elle aurait même annoncé avant sa mort les victoires du joueur d'échecs bulgare Veselin Topalov, numéro 1 mondial de 2006 à 2009. En 2006 et en 2009, pardon. Alors, tout ça est assez foufou pour le moment, mais il y a quelque chose d'encore plus fou. C'est l'histoire de Silvana Armenulic. En août 1976, une actrice et chanteur populaire yougoslave du nom de Silvana Armenulic était en tournée en Bulgarie. Elle en a profité pour aller voir la star locale, Baba Vanga, mais leur rencontre ne s'est pas très bien passée. Vanga est restée longuement silencieuse et la situation devenait franchement gênante. Lorsqu'elle a enfin pris la parole, Vanga lui a dit de partir. Elle lui aurait dit, je cite, « Vous n'avez pas à me payer, je ne veux pas vous parler, pas maintenant. « Revenez me voir dans 3 mois. » Silvana, un petit peu déçue, s'est levée pour quitter la maison, mais Vanga l'a finalement retenue et lui a dit ceci. « Attendez. En fait, vous ne pourrez pas revenir. Partez, partez. Si vous pouvez revenir dans 3 mois, faites-le. » Silvana Armenulic est morte 2 mois plus tard, dans un accident de voiture, le 10 octobre 1976. Et contrairement à beaucoup de prédictions de Baba Vanga, cette histoire a une source relativement fiable. L'anecdote a été racontée dans une biographie de la chanteuse qui est sortie en 2013, écrite par le journaliste musical Ivan Ivakovic. En dehors de ce cas particulier, les prédictions de Baba Vanga sont très explicables. Tu l'auras sans doute remarqué, Charles, parce que je sais que tu as cette écoute et cet œil-là. Les oracles comme Baba Vanga ou même Nostradamus font toujours des prédictions très vagues et qui sont libres d'interprétation.
Et qu'on peut nous rattacher à des événements réels.
Exactement. Et on les attribue souvent a posteriori et à beaucoup de choses. Ensuite, il y a un phénomène psychologique qui entre en jeu, qui s'appelle le biais de confirmation. On retient uniquement les prédictions qui se réalisent et on oublie celles qui ne se sont pas réalisées. Et justement, en la matière, Baba Vanga a fait énormément d'erreurs. Je vais t'en citer quelques-unes. Elle a notamment prédit les noms des deux pays en finale de la Coupe du Monde de football 94. Elle disait que ça commencerait par un B pour les deux pays. Et finalement, ça a été un Brésil-Italie, Bon, bah, finalement, c'était un petit peu raté. D'après un journal d'Abu Dhabi, elle aurait aussi prédit que la troisième guerre mondiale démarrait en novembre 2010 ou en octobre 2014. Bon, bah, dans les deux cas, c'est raté. Et elle aurait aussi prédit qu'il n'y aurait plus de végétation ou d'animaux dans l'hémisphère nord dès 2011. Alors même si ça commence petit à petit, on n'y est pas encore.
Ça, c'était plus audacieux déjà.
Oui, c'était... Bon, après, c'était en 96, bon, peut-être qu'elle... Enfin, avant 96, si tout cela est... Si on part du principe que tout cela est vrai, bien sûr. Et veux-tu savoir ce que Baba Vanga aurait prédit pour 2019? Puisque, bah, du coup, l'année s'est terminée.
Je suis curieux, on va pouvoir vérifier ensemble.
Eh ben, tu vas être un petit peu déçu, puisque fin 2018, donc le Sun, le célèbre tabloïd britannique, avait publié ses prédictions. Et c'était exactement les mêmes que pour 2020. La maladie de Trump, la tentative d'assassinat sur Poutine, la grosse météorite en Russie, le tsunami, exactement les mêmes. Donc ça veut dire que les sites, j'ai remarqué, depuis quelques années, ont tendance à faire pas mal de copier-coller des soi-disant prédictions des années précédentes pour les dire « Ah bah elles se sont pas faites l'année dernière, ce sera pour l'année prochaine ». Et ça, ça dure depuis quand même quelques années, donc sur des sites de médias installés comme le Sun, mais surtout sur énormément de sites un petit peu obscurs qui relaient généralement des théories du complot. Alors, Baba Vanga a fait beaucoup d'erreurs, mais il y a encore pire. En réalité, il est possible qu'elle n'ait jamais fait toutes ces prédictions. Car ça va peut-être te surprendre, Baba Vanga n'a jamais rien écrit. Vangelia Dimitrova était analphabète. Elle n'a jamais rédigé de livre ou de prophétie. Donc tout ce qui se passe après sa mort se base sur des témoignages de gens qui disent l'avoir connue ou approchée de près. Ce qu'elle aurait dit a été rapporté par des membres de son personnel de Rupité. Ce sont des sources pas toujours 100% fiables, d'autant plus qu'il se dit que Baba Vanga avait tendance à marmonner, voire à parler dans un charabia un petit peu incompréhensible, pendant qu'elle faisait ses prédictions.
Ça peut induire quand même une sacrée dose d'erreur.
Voilà, ça laisse encore une fois libre cours aux interprétations à chaque fois qu'elle parlait, et de la manière dont on traduit, de la manière dont on écrit ce qu'elle a dit.
Mais du coup, si elle est décédée en 96, c'est ça?
Exactement.
Comment elle a pu faire elle a fait des prédictions sur Donald Trump en 2019?
Exactement, c'est ce qu'on dit, évidemment.
Donc elle savait qu'il serait président?
Bah alors, visiblement. Elle aurait prédit aussi l'élection d'Obama, enfin l'élection d'un président afro-américain aux États-Unis, par exemple. Mais bon, tout ça, évidemment, c'est en partant du principe qu'elle l'aurait réellement prédit, puisque, comme je te le dis, elle n'a rien écrit, et les gens interprétaient ce qu'elle disait. Donc on peut faire dire, en fait, tout ce qu'on veut à Baba Vanga. Et certains ne se gênent vraiment pas pour le faire. Sur beaucoup de sites d'extrême droite, par exemple, on peut voir passer une fake news disant qu'elle a prédit, je cite, une grande guerre musulmane, et que l'Europe serait envahie d'extrémistes musulmans. Donc forcément, les racistes s'en servent pour... Les islamophobes s'en servent pour partir dans leur délire sur le grand remplacement. Voilà. Donc on l'utilise pour ça. Et aux États-Unis aussi, des sites ont assuré que Baba Vanga aurait prédit l'élection de Barack Obama, mais aussi prédit que ce serait le dernier président américain de l'histoire. Ah. Donc sous-entendu, il ne faut surtout pas voter pour lui. Donc évidemment, voilà, c'était pour l'empêcher à tout prix de remporter l'élection. Donc voilà, on se rend compte qu'on se sert pas mal de la figure de Baba Vanga dans certains milieux extrémistes et chez les créateurs de fake news pour essayer de dire « Ah, vous voyez, une voyante bulgare avait prédit que si jamais il se passe ça, ce sera l'enfer ». Alors, pour essayer de déblayer un petit peu tout ça, le site bulgare, alors je vais l'appeler 24 Chaza, je sais pas comment on dit 24 en bulgare, désolé, on dit ça, mais a fait un article sur Baba Vanga en 2010. Alors les journalistes ont retrouvé des amis et des proches de Baba Vanga, des gens qui l'avaient côtoyé. Ils ont tous assuré qu'ils étaient choqués de découvrir ces fausses prédictions. Ils ont bien entendu dit que Vangelia ne les avait jamais faites, qu'elles avaient été totalement inventées. Elle aurait notamment jamais prédit de guerre mondiale. Et en 1970, dans un livre qui s'appelle « Fantastique recherche parapsychique en URSS », les auteurs américains Sheila Ostrander et Lynn Schroeder se penchaient sur le cas de Baba Vanga. Ils ont rapporté leur entretien avec Yorgi Lozanov, qui était le fondateur de l'Institut de Suggestologie, dont je parlais tout à l'heure. Et ce monsieur expliquait que Vanga ne faisait, je cite, « aucune prédiction de caractère politique » et qu'elle s'y refusait catégoriquement. Donc il n'y a pas de raison pour qu'elle ait changé d'avis par la suite. Alors, la dernière question qui reste, c'est est-ce que Baba Vanga, même si aujourd'hui on lui fait dire tout ce qu'on veut, de son temps, est-ce qu'elle avait réellement des pouvoirs? Question qui peut se poser, peut-être elle avait réellement des pouvoirs à l'époque, elle avait peut-être réellement prédit des choses, notamment ce cas de la chanteuse qui est assez perturbant. Et bien dans un article consacré à Vanga paru en 2015, Paris Match rapporte les propos d'une paysanne de Rupité. Voici ses propos. Les gens d'ici ne la croient pas. Elle raconte à ses visiteurs ce qu'ils veulent entendre. Elle est surtout motivée par l'argent. Ça mérite d'être clair. Donc même sur ces terres, l'authenticité des pouvoirs de Vanga faisait débat. Et malgré tout, elle continue de faire régulièrement l'actualité et d'être présentée comme la mystique ou encore mieux la prophétesse bulgare. En 2013, Channel One Russia a par exemple diffusé une série en 24 épisodes sur sa vie. Et chaque année, on retrouve bien évidemment dans les médias cette personne avec une nouvelle fournée de prédictions qui ne se base sur rien. Mais malgré tout, 24 ans après sa mort, sa légende reste toujours aussi intacte. Même si on vient un petit peu de l'égratigner ici.
Donc une affaire qu'on pourrait considérer plutôt comme classée.
Oh que oui, le degré de mystère pour moi est très proche de zéro. Évidemment, une fois qu'on commence à déconstruire tout ce qui s'est passé, à essayer de comprendre le mécanisme de ces visions, donc qui n'existe visiblement pas et qui faisait énormément débat même sur place. Donc ce qui est sûr en tout cas, c'est que tout ce qui est d'ordre politique et tout ce qui est d'ordre grande catastrophe, grande guerre mondiale, tout ça, est purement inventé par des gens qui se servent de sa figure pour un agenda politique ou pour véhiculer leurs idées nauséabondes la plupart du temps. Même si, et je resterai peut-être là-dessus, cette petite lueur de mystère qui reste, l'histoire de la chanteuse yougoslave, moi, me perturbe toujours un petit peu. Après, voilà, c'est encore une fois le biais de confirmation, peut-être que je me focalise uniquement sur une des seules prédictions qui s'est avérée exacte.
C'est, ouais, c'est pas improbable. Affaire classée, donc.
Affaire classée.
Nina Kulagina, l'arme secrète de l'URSS. Des années 60 aux années 90, une femme russe, du nom de Nina Kulagina, a interrogé les autorités scientifiques locales et internationales. Nina Kulagina aurait eu des pouvoirs psychokinésiques, notamment la capacité de déplacer des objets par la pensée. Donc cette jeune femme, comme je disais, Nina Kulagina, de son nom complet Ninel Sergeïnevna Kulagina, est née durant le mois de juillet 1926 à Leningrad. Et le début de sa vie fut plutôt agité, notamment à cause d'un petit événement qui s'appelle la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle a rejoint l'armée rouge alors qu'elle avait seulement 14 ans. Elle a participé au front de Leningrad contre les nazis en tant qu'opératrice radio pendant plusieurs mois d'affilée. Certains récits disent même qu'elle a été sur le front pendant près de 900 jours. Alors je sais honnêtement pas si le front a réellement duré 900 jours, mais c'est une des rumeurs qui circulent sur elle. Elle sera gravement blessée par une explosion, mais se rétablira. Plus tard, elle se marie et donne naissance à un fils. Plusieurs années après la fin de la guerre, c'est à ce moment-là que ses premiers pouvoirs font surface. Elle aurait tout d'abord la capacité de détecter des objets dans les poches des gens. Ou encore, et c'est bien plus impressionnant, de diagnostiquer une maladie simplement en regardant la personne concernée. Quand elle est en colère, elle pourrait carrément faire tomber des objets autour d'elle, des objets qui se trouvent dans la même pièce qu'elle, pourrait réagir à ses états d'humeur. Tout ceci ressemble assez fortement à une activité paranormale, à un fantôme hein, ou un poltergeist, sauf qu'elle ne se dit pas victime de ces phénomènes, au contraire, elle prétend pouvoir les contrôler. Et c'est en 1964 que tout va basculer. Elle se retrouve à l'hôpital à cause d'une dépression nerveuse. Sauf que plusieurs petits événements vont étonner les médecins et le personnel hospitalier. Alors qu'elle coud tous les jours pour s'occuper, elle coud des vêtements, le personnel remarque qu'elle n'a jamais besoin de regarder son panier pour prendre la couleur de fil dont elle a besoin. Elle peut parfaitement tenir une discussion avec quelqu'un tout en choisissant le bon fil sans regarder. L'année suivante, après s'être remise de sa dépression, elle est contactée par des parapsychologues pour passer une batterie de tests. Une des premières expériences consiste à lui bander les yeux et lui faire deviner les couleurs d'objets par le toucher. Eh bien, Mathias, tu le croiras ou non, mais apparemment pour elle, c'était très facile. Le résultat des expériences montre, ou en tout cas laisse entendre, qu'elle pourrait voir par le toucher.
Donc, ce sont des études faites par des parapsychologues, on est d'accord.
Par des parapsychologues, exactement.
Rappelons que la parapsychologie n'est pas une science reconnue.
C'est pas une discipline universitaire, en tous les cas en France. Si vous voulez voir quelles sont les disciplines universitaires reconnues en France, c'est assez simple. Vous pouvez aller tout à fait sur la page Wikipédia du CNU, le Conseil National des Universités, et vous pourrez voir la liste des disciplines qui sont reconnues. Il y en a un peu plus de 70, on a presque 80. Et vous pourrez constater que la parapsychologie n'en fait pas partie.
Pour une raison toute simple, c'est que même si on peut utiliser des méthodes scientifiques pour essayer de comprendre des phénomènes qu'on nous présente comme paranormaux, déjà il y a la question de les gens qui font de la parapsychologie, souvent y croient de base, donc ouais, ça peut exactement fausser les résultats. Et en plus, c'est très compliqué d'analyser, comme on le fait avec la méthode scientifique, sur des grands échantillons, puisque bah, il y a très peu de personnes qui auraient des pouvoirs paranormaux, en tout cas qui prétendent en avoir.
Ouais, exactement. Puis même, on parlera, enfin, continuera pas forcément sur la question de l'épistémologie, mais du coup pas mal de personnes qui défendent la parapsychologie estiment que l'épistémologie mise en place par les sciences que l'on connaît, qui se base sur des observations concrètes, ben du coup ne s'applique pas, les méthodes scientifiques ne s'appliquent pas à la parapsychologie, ce qui évidemment complique beaucoup les choses. D'autres expériences menée sur Nina Kulagina montrerait des capacités de guérison extraordinaires. Elle aurait notamment fait cicatriser des blessures simplement en posant sa main dessus. D'autres expériences encore la décrivent dos à un mur. De l'autre côté du mur, un scientifique colle une lettre ou un chiffre sur une feuille de papier. Et même séparée par le mur, Nina Kulagina serait en capacité de lire ce qui est écrit sur le papier. Ce qui, au final, correspond à la grande majorité des cas que l'on connaît en psychokinésie, et tous les phénomènes parapsychologiques de gens qui seraient capables de contrôler leur pouvoir. Ça fait partie des grandes expériences que l'on connaît dans la culture populaire. Les résultats des tests auraient été si impressionnants que les chercheurs auraient tenu à garder l'identité de la femme secrète. Nous sommes à ce moment-là en pleine guerre froide, et Nina Kulagina aurait eu, du coup, pour pseudonyme Nelia Mikhailova pendant de nombreuses années, afin qu'elle ne soit pas retrouvée, notamment par les adversaires de la Russie, qui auraient pu y voir, évidemment, une arme secrète, une arme potentiellement dévastatrice, puisqu'elle pourrait tout à fait déplacer des objets ou lire dans la pensée des gens.
Ou tout simplement dessiner des plans de bases américaines à distance, par exemple.
Enfin, exactement.
Parce qu'elle permet de voir, elle voit avec la pensée des lieux, donc elle peut...
Elle voit des lieux, ouais.
Elle pourrait, sur le papier, totalement cartographier des bases américaines.
C'est ça.
Faire les plans.
Deux psychologues auraient, à ce moment-là, suivi et effectué des tests sur la jeune femme. Le docteur Gennady Sergeyev aurait enregistré en 1966 des activités électriques exceptionnelles provenant de son cerveau. Mais ce qui est étrange, c'est que les scientifiques qui s'expriment pour parler de leurs découvertes autour de la jeune femme ne le font jamais dans des revues scientifiques, mais toujours dans la presse, où il n'y a évidemment pas besoin de détailler les protocoles employés. Au mois de mars 1968, le Mendeleev Institute of Metrology annonce dans la Pravda de Moscou que Nina a déplacé des tubes d'aluminium sous l'œil de leur caméra. À ce moment-là, les exploits de Nina Kulagina commencent à traverser les frontières et atteignent le bloc ouest, environ printemps 1968. C'est cette même année que les premières images vidéo d'elle en train de faire bouger des objets par la pensée furent publiquement divulguées pendant la première conférence internationale de parapsychologie à Moscou. Des scientifiques internationaux ont eu accès à ces images et pendant un temps auraient eu aussi le droit d'approcher la jeune femme et de l'observer pendant plusieurs séances de psychokinésie. Plusieurs observateurs, dont l'américain Joseph Gaither Pratt de l'université de Virginie, notent que les objets que la femme peut déplacer varient en taille, mais surtout, c'est le plus important, ils varient en matière. Parce que si on peut accuser Nina Kulagina de triche pour les métaux, qu'elle pourrait déplacer tout simplement grâce à un aimant caché dans ses vêtements ou dans son environnement proche, c'est plus compliqué en revanche pour les allumettes ou tout simplement pour les balles de ping-pong en plastique, puisque ça fait partie des objets légers qu'elle est capable de déplacer. Mais l'expérience la plus impressionnante n'a pas été filmée. Parce que je rappelle qu'il y a certaines expériences qui ont été filmées et d'ailleurs que l'on peut retrouver aujourd'hui sur internet, sur YouTube en particulier, on peut trouver des images de Nina Kulagina en train de déplacer des objets par la pensée. Mais l'expérience la plus impressionnante n'a pas été filmée. Elle a eu lieu le 10 mars 1970. Nina Kulagina aurait, à la demande des scientifiques, tenté d'arrêter le cœur d'une grenouille. Après plusieurs tentatives, elle aurait réussi à faire accélérer son rythme cardiaque, à partiellement stopper le cœur de la grenouille, puis à le stopper totalement. Elle aurait, en parallèle, causé des troubles cardiaques à un psychiatre de Leningrad qu'elle estimait hostile à son égard. Encore une fois, ces événements ne sont jamais racontés dans des textes scientifiques. Ce qui est impressionnant, c'est que Kulagina semble vraiment produire des efforts conséquents pour faire bouger des objets et pouvait parfois terminer une expérience en sueur. Elle a parfois perdu, ce qu'on dit, jusqu'à 2 kilos en une demi-journée d'expérience. Et ce qui corrobore en tout cas certains extraits vidéo où on la voit réellement forcée, elle a l'air d'avoir le corps entièrement tendu pour faire bouger un objet. Un des articles scientifiques que j'ai pu lire, alors cette fois un article vraiment, en tous les cas qui a été publié dans une revue scientifique que j'ai pu lire sur le sujet, est écrit par Mario Varvoglis. Il explique qu'elle fait partie de ceux qui, parmi les gens qui pratiqueraient la psychokinésie, produit le plus d'efforts physiques. Il n'était pas rare que son cœur atteigne les 160, voire 180 battements par minute, et sur le long terme, d'importantes pertes de poids auraient réellement été observées. Ce qui n'est pas dit souvent, c'est qu'elle pouvait passer entre 2-4 heures à essayer de faire bouger un objet avant que l'objet ne se déplace réellement. Souvent, on a des enregistrements qui durent quelques secondes, maximum une minute, mais apparemment, elle pourrait prendre jusqu'à une demi-journée pour réussir à se concentrer et à mobiliser l'énergie nécessaire au déplacement de l'objet, ce qui accrédite, on va dire, la thèse qu'il s'agit d'une histoire de concentration et d'énergie plutôt qu'une astuce de magicien. S'il s'agissait d'une astuce de magicien, elle y arriverait sans doute au bout de quelques minutes. Cela occasionnerait aussi chez elle des troubles et parfois des problèmes de santé. Parfois, les expériences se terminaient par des troubles de la parole, de la vue, voire une cécité totale mais temporaire. L'article de Mario Varvoglis, qui s'intitule « Être et connaître la parapsychologie comme transformateur épistémologique », c'est un article intéressant, l'auteur semble, on va dire, assez enclin à croire quand même dans les phénomènes paranormaux, mais il ne les qualifie pas forcément comme ça. Il a, pour le coup, une approche assez scientifique, assez honnête de la parapsychologie, même s'il lui a tendance à y croire. Il parle notamment du cas de Nina Kulagina et dit quelque chose de très intéressant, je vais le citer. Il dit « Le parapsychologue Charles Honorton était arrivé à l'hypothèse que la tension musculaire affectait l'effet PK. » Donc l'effet PK, c'est l'effet psychokinésique. « Ceci dérivait de son observation de quelques sujets psy brillants, comme la russe Nina Kulagina ou l'américaine Felicia Paris, qui exerçaient des efforts physiques extrêmes durant les sessions. Il testa alors un groupe de 6 sujets dans une expérimentation de micropsychokinèse utilisant un générateur numérique aléatoire et obtint des résultats significatifs pendant les périodes dites avec tension, donc musculaire, alors que les périodes relaxation donnèrent des résultats nuls. Mais un autre expérimentateur qui n'était pas convaincu de l'importance de la tension testa 10 sujets et fut incapable de reproduire les premiers résultats. Honorton se prit alors lui-même comme sujet et se testa avec le même protocole expérimental. Ce fut étonnant. Résultat hautement positif pour les conditions avec tension, mais en plus hautement négatif pour la relaxation. Comme si Honorton, déterminé à démontrer son hypothèse d'une relation entre augmentation de l'effet psychokinésique et tension musculaire, poussait l'effet à son maximum jusqu'à provoquer des résultats négatifs dans les conditions de relaxation. Ainsi, alors que la première expérimentation suggère une relation existant entre le psy et la tension musculaire, l'ensemble des expériences suggère au contraire qu'Honorton lui-même a créé cette association qui serait alors vérifiée avec ou sans sujets expérimentaux présents. Cette citation est intéressante, alors elle était peut-être un tout petit peu compliquée.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Toi, tu es habitué à lire des textes scientifiques. Je t'avoue que j'ai un peu décroché en cours de route. Est-ce que tu peux nous résumer?
Oui.
Oui, bon,
c'est sa place, grosso modo, ça replace le rôle de l'expérimentateur dans le cadre d'expériences parapsychologiques. En gros, si un expérimentateur est particulièrement déterminé à prouver que la tension musculaire pourrait avoir des effets en psychokinésie, Eh ben, ici, il mesure sa tension musculaire avec, je sais pas, un champ électrique ou ce genre de choses-là, il va réussir, parvenir à ses fins, même sans sujet, capable d'avoir des expériences psychokinésiques.
Alors on en revient donc à ce qu'on disait tout à l'heure sur le
Exactement.
problème avec la parapsychologie, c'est que quand l'expérimentateur a tendance à y croire beaucoup, ça peut éventuellement fausser les résultats.
Ça peut fausser les résultats. Donc ça rappelle finalement juste que tout simplement le rôle d'expérimentateur est primordial dans l'étude de ces phénomènes et que plusieurs personnes persuadées de l'existence de pouvoirs psychokinésiques réunies dans une même pièce ont plus de chances de voir leurs résultats se valider que lorsqu'ils sont seuls ou accompagnés tout simplement de personnes qui n'y croient pas. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui est rappelé dans l'article que souvent il est nécessaire d'avoir des personnes qui y croient pour que les résultats soient positifs. Ce qui est quand même assez drôle, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est mesuré, l'article est plutôt pro-parapsychologie, c'est ça qui est drôle, c'est que l'article est plutôt pro-parapsychologie, mais avoue qu'il faut que les personnes y croient pour que ça marche, ce qui est assez cocasse. Et pour revenir à notre sujet, ce qu'on sait, ou ce qu'on ne sait pas plutôt, c'est de quelle manière était contrôlée Nina Kulagina avant les expériences. La seule trace accessible que l'on ait qui contextualiserait un peu les séances de psychokinésie sont rapportées dans la version tchèque de la Pravda par le docteur Zdeněk Hreždák, qui dit, je le cite, nous avons vérifié la table constamment et avons demandé à Madame Kulagina de changer de position. Nous avons approché une boussole de son corps, puis de la chaise, puis de la table, sans résultat, évidemment, pour détecter peut-être des métaux qui pourraient orienter les objets sur la table. Je lui ai demandé de se laver les mains. Après concentration, elle a fait bouger l'aiguille de la boussole une dizaine de fois, puis elle a déplacé la boussole et sa housse. Et une vingtaine d'allumettes en même temps. J'ai placé une cigarette devant elle, elle l'a déplacée aussi. Encore une fois, c'est publié dans un journal qui avait l'habitude de publier de la propagande pour le bloc Est, et c'est ça qui rend toute l'affaire si compliquée. Parmi les critiques adressées à Nina Kulagina, il y a aussi le fait que les tests semblaient souvent prendre place chez elle, ou dans des lieux qu'elle connaissait bien, ou parfois dans des chambres d'hôtel plutôt que dans des laboratoires. Apparemment, cela se faisait plutôt à sa demande. Si on en croit la Pravda, ce n'était pas toujours le cas. Si on lit des articles de la Pravda, il y a parfois des tests qui auraient été faits en laboratoire. Mais on n'a pas de trace de ces tests-là dans des publications scientifiques. Malheureusement, les films qui existent aujourd'hui sont de trop mauvaise qualité pour affirmer ou déterminer s'il y a eu une astuce que pourrait utiliser un magicien, par exemple. Selon l'historien Mike Dash, Nina Kulagina aurait été arrêtée plusieurs fois, attrapée en flagrant délit de triche par les autorités soviétiques elles-mêmes. Et elle aurait même utilisé plusieurs de ces astuces pour se faire de l'argent, pour se faire quelques milliers de roubles, si on en croit un article de Vladimir Lvov, encore une fois, dans la Pravda. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'elle ait été prise dans un engrenage de communication de l'Union soviétique pour servir soit de leurre, soit pour intimider les adversaires de l'ex-URSS, ce qui aurait potentiellement et partiellement marché, puisque, on le sait, les Américains ont aussi tenté de reproduire ce genre d'expérience de leur côté avec les programmes MK.
C'est ce que j'allais
Toujours
dire,
est-il.
l'histoire où elle fait s'arrêter de battre le cœur d'une grenouille, ça nous fait
Si,
inévitablement penser au film Les
exactement.
Chefs du Pentagone, où ils essayent
Exactement.
de tuer une chèvre par la pensée, quoi.
Ce qui, au bout de plusieurs heures, advient hein, dans le film. Et
Tout
on voit
à
la
fait.
chèvre qui tombe.
Excellent film d'ailleurs qu'on vous conseille au passage.
Très. Ouais. C'est vrai, très bon film. Elle est décédée, Nina Kulagina, en 1990, à l'âge de 63 ans, d'une crise cardiaque. Une crise cardiaque que certains attribuent aux efforts qu'elle aurait fournis durant toutes ces années de tests, qui malheureusement est assez peu étonnant, vu l'effort, en tous les cas dans les récits que j'ai pu lire, l'effort qu'elle aurait produit aurait affecté sa santé. Alors est-ce que l'affaire est classée pour autant? Je dirais que le niveau de mystère est élevé, quand même. Parce que ça fait partie aussi du contexte de l'époque, il n'y a pas beaucoup de matériaux sur lesquels travailler. Et c'est une des difficultés que j'ai eues pour travailler sur cette histoire, c'est la faible quantité de documentation scientifique qui existe, qui du coup font pencher évidemment très fortement pour un immense canular de la part de l'Union soviétique, mais qui est souvent utilisé comme cas très sérieux par les parapsychologues pour montrer l'existence de pouvoirs psychokinétiques chez certaines personnes. Donc c'est une affaire qu'il est très difficile de classer, notamment dû à la difficulté de la documentation. Toi, t'en penses quoi, Mathias?
J'en pense que ça devient rare dans le bureau des mystères qu'on ait des affaires difficiles à classer. Souvent, on se rend très vite compte que c'était un canular, ou qu'il y avait une astuce, ou que le fantôme n'en était pas un, mais qui était une construction médiatique. Là, en l'occurrence, bah oui, on pourrait éventuellement se dire que tout ça rentre dans un programme de propagande de l'URSS de l'époque, en contexte de guerre froide, c'est une possibilité. Mais
Oui.
ce qui me met un petit peu, ce qui me fait pencher du côté de, elle aurait peut-être pu avoir des pouvoirs, c'est peut-être une forme d'intégrité scientifique, puisqu'on a quand même au moins un texte scientifique dont tu parles qui évoque ça, même si l'expérimentateur est un petit peu biaisé, évidemment, il y a
Oui,
des
et
mesures qui ont été
l'auteur de
prises.
l'article aussi, l'auteur de l'article aussi, c'est l'article est disponible, hein, je vous ai donné le titre, je vais le redonner, je vais le retrouver. Être et connaître la parapsychologie comme transformateur épistémologique. C'est un article intéressant parce qu'il revient aussi sur la place de la parapsychologie et sur l'image qu'on lui attribue dans l'Académie française. Donc c'est un article qui est assez intéressant, mais qui est clairement pro-parapsychologie. C'est pas un article critique. C'est aussi un article qui cherche à comprendre aussi certaines choses des fois. Et du coup, je l'ai trouvé assez intéressant.
Un truc que je trouve très intéressant avec ce cas-là, c'est que contrairement à d'autres cas où on a vu très clairement que c'était charlatan, je pense notamment à Uri Geller aux États-Unis qui tordait des cuillères et où bon bah Jaram Ajax avait prouvé que c'était complètement du bidon et de la prestidigitation. Là, en l'occurrence, on a une personne qui ne fait pas ça facilement. Où, comme tu le dis, elle
Oui.
est épuisée après ses sessions. Alors, soit elle fait semblant d'être épuisée, c'est une possibilité, soit elle est réellement épuisée, donc ça veut dire qu'elle engage quand même une énergie dans ce qu'elle fait. Donc, il se passe quelque chose. Est-ce que ça a réellement une influence? Est-ce que ça fait réellement bouger des objets? C'est une autre question. Mais en tout cas, il semblerait qu'elle, en tout cas, fournisse de
Elle
grands
produit
efforts
des
lors de ses
efforts,
tests.
ouais. Oui, ça, et il reste une dernière théorie, alors que je trouve assez maligne aussi, c'est que, si tu te souviens bien, au début de l'histoire, j'ai expliqué qu'elle était blessée pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle aurait subi une explosion proche d'elle, et elle aurait subi les effets de cette explosion, et se serait retrouvée avec quand même pas mal, potentiellement, des débris dans le corps. Et il y a toujours cette hypothèse, alors ça marche pas évidemment pour les allumettes, ça marche pas pour les objets en plastique, mais il y a toujours cette hypothèse que dans son corps résident des éclats métalliques qui auraient aussi pu, à un moment donné, intervenir dans cette sorte de magnétisme qu'elle aurait pu avoir.
Oui, c'est vrai. Mais ça n'explique pas le bois, ça n'explique pas le plastique,
Voilà.
etc. Donc, ouais, non,
C'est
c'est.
ça.
Après, c'était des objets plutôt légers. Donc, est-ce qu'on peut
C'était
envisager
toujours
d'autres
des objets
stratagèmes?
légers. Et puis ça, elle a jamais servi d'arme. C'est
Oui,
ça que
voilà.
je trouve drôle, c'est qu'elle a
Il
ça,
faut bien faire
si
la
ça
part
avait
des choses.
marché, oui.
Je ne crois. Tout à l'heure, je parlais du fait qu'elle aurait peut-être pu dessiner des plans de base américaine. Ça, non, ça n'a jamais été
À cette
attesté. C'est de la
distance,
pure
c'est
fiction.
impossible. Puis
Quand vous
oui,
disiez ça
elle
quelque part sur Internet, c'est plutôt, voilà, on est limite sur de la
a...
fanfic de Nina
Oui,
Kulagina.
complètement, oui.
C'est des suppositions qu'il y a eu après. Mais non, non, mais par contre, sur le fait qu'elle ait peut-être éventuellement pu déplacer quelques objets avec des formes d'énergie ou quoi, je n'en sais rien. Je t'avoue que pour moi, ça se rapproche un petit peu de cas que j'ai du mal à m'expliquer. On nous a interpellé plusieurs fois sur des cas de, par exemple, les conjureurs de feu, les magnétiseurs. C'est des cas où il faudrait que je me. Qu'on se penche vraiment
Oui.
dessus, vraiment avec une rigueur scientifique pour essayer de déterminer si oui ou non ça existe. En tout cas, ça reste pour moi mystérieux. Et le cas de Nina Kulagina rentre dans cette catégorie-là. Pour moi, ça reste mystérieux. Et je me vois mal classer l'affaire, en fait.
C'est
Mais
vrai,
après,
c'est vrai.
je ne sais pas si on pourra la classer un jour, puisque bah, il y a très peu de
Ouais,
documentation.
là, pour le coup, ça reste compliqué. Ce qui entre aussi en ligne de compte, c'est que, bizarrement, les expériences qui ont été captées en caméra sont toujours des expériences de déplacement d'objets. C'est jamais elle capable de lire une lettre à travers le mur, ou il y a des récits qui diraient qu'elle aurait été capable de guérir des blessures simplement en les touchant. Tout ça n'a jamais été capturé, n'a jamais été filmé, alors que on peut supposer que si ça aurait été une arme de propagande aussi incroyable, si elle avait été capable de le faire. Or, ça n'a jamais été capturé en vidéo. Donc on peut aussi se dire que s'il y a seulement les déplacements d'objets qui ont été capturés en vidéo, c'est sans doute que c'était possible de les truquer.
Un petit fil de pêche par-ci par-là. Si on part dans l'hypothèse de la
Exactement,
propagande, hein, voilà,
exactement.
bien sûr.
Ouais.
Mais donc voilà, bah écoute, moi je ne classerai pas l'affaire et je
Oh, très
garderai
bien.
un degré de mystère relativement élevé, ce qui devient
Je suis
rare, mais
d'accord.
pour une fois, oui.
Eh ben, on peut poser le dossier sur le bureau, alors je le laisse ouvert.
On le range dans l'armoire des dossiers non fermés. Avant de se quitter, on va quand même se faire quelques recommandations culturelles, mon cher Charles, sur la thématique du
Oui.
jour. J'ai cru comprendre que tu allais nous parler de quelques petits trucs un petit peu soviétiques.
Oui.
Moi, j'ai voulu commencer, en rapport avec Baba Vanga, par parler de voyance, évidemment, hein, puisqu'on parle d'une voyante, d'une prophétesse bulgare. Déjà, ma première recommandation, je pense que ce sera pas une recommandation pour toi, puisque tu le fais déjà, c'est tomber parfois sur d'obscures chaînes de la TNT, sur des replays de 100% voyance,
Là,
qui
non,
est...
je fais pas ça.
Ah, tu le
Je
fais que quand je
malheureusement.
viens? Je te l'impose, en fait. Non, voilà, si jamais vous voulez rire un bon coup, de temps en temps, vous êtes en train de zapper, en train d'errer sur des chaînes 100% voyance, notamment sur IDF1, c'est toujours un bon plaisir de voir les personnes de demander des conseils à des voyants qui, clairement, ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire et sont en train de broder. C'est très intéressant de voir des gens en train de broder en temps réel.
Oui. Par contre, il y
C'est
a des
assez
bons replays
fascinant.
sur YouTube, si jamais vous savez pas la chaîne, il y a des bons replays sur YouTube aussi, il y a des bonnes
Oui.
compilations.
Oui, voilà, plutôt les compiles, parce que ça, c'est vraiment quand on tombe dessus à la télévision en fin de soirée, c'est souvent un petit peu par hasard, mais les
Ouais.
compiles sur YouTube où il y a les plus mauvaises prédictions, c'est toujours un régal à regarder. Donc voilà. Non, je voulais parler surtout plus sérieusement d'un film qu'on avait déjà vaguement abordé dans le Bureau des Mystères, puisqu'on avait fait un bureau des mystères, un numéro de recommandation. On parlait de Haunting of Hill House sur de
Oui.
Mike Flanagan, sa série. Et je crois qu'on parlait brièvement au moment d'un film de Mike Flanagan, donc, qui est Ouija, les origines. Alors, Ouija, les origines, j'en avais gardé un plutôt bon souvenir, et je m'étais dit, bah tiens, j'ai parlé de voyance, je vais peut-être me le refaire au cas où, voir si c'était vraiment si bien que ça. Et effectivement, je maintiens, c'est un de mes films de Mike Flanagan préférés, donc il est disponible sur Netflix actuellement. J'aime beaucoup ce film. Si vous avez aimé The Haunting of Hill House, vous allez revoir plusieurs acteurs de la série qui sont dans d'autres rôles, notamment Elizabeth Reaser qui joue le rôle
Ouais.
principal, là, qui joue le rôle donc d'une médium, enfin d'une personne qui se fait passer pour une médium, et donc à qui il va arriver plein de choses bizarres à cause d'une planche Ouija. Donc c'est un film que je trouve très bien construit. Il y a un petit côté James Wan parce qu'il y a une patine années 70 en fait, qui est très présente.
Et elle doit protéger ses filles, si je me rappelle bien.
Exactement, oui, c'est une mère qui va essayer de protéger ses deux filles, puisque donc il y a une des gamines qui va être possédée par un esprit invoqué par la Ouija, puisqu'on rappelle, hein, quand vous faites de la planche Ouija, il faut toujours dire goodbye avant de partir. Et si vous ne le faites pas, les esprits sont toujours là. Vous connaissez la méthode. Et là, dans le film, bah, on oublie évidemment de dire goodbye à plusieurs reprises, et ben bah, les esprits vont petit à petit venir dans la maison. Donc ouais, c'est un très bon film, un très bon divertissement. Voilà, on n'est pas sur du chef-d'œuvre évidemment, mais je trouve que c'était un très bon film de Mike Flanagan qui souvent passe un peu inaperçu dans sa filmographie, puisque bah, clairement c'était un travail un petit peu de commande.
Oui,
Il
c'est ce que
arrive
j'allais
après
dire, ouais.
Ouija. Il y
C'est
a Ouija
ça.
le premier qui était pas bon, enfin qui était pas un bon film d'horreur du tout, qui était donc contemporain, il se passait de nos jours, avec notamment, je crois, l'actrice principale, c'était une des actrices de Bates Motel, si je me souviens bien.
Ah.
Et donc j'avais pas du tout aimé le premier, c'était vraiment du jumpscare putassier dans tous les sens, avec une bande de teenagers pas attachants, enfin c'était vraiment pas bien Ouija. Et on donne à Mike Flanagan la mission de faire Ouija les origines, le préquel, donc l'histoire d'un des personnages qu'on voit dans Ouija et qui était le premier possesseur de la Ouija. Et cette histoire-là, c'est celle qui est racontée dans le film et qui est, ma foi, très bien, fort bien racontée, avec un très bon sens du rythme. Alors avec quelques effets, on sent qu'il n'est pas encore au niveau de la maestria qu'il a atteint dans Haunting of Hill House. Hein. Il y a des petites choses visuelles qui me déplaisent fortement, notamment le design d'un des monstres. Mais bon, voilà. Mais ça reste un film très bien construit et très, très sympa à suivre. Donc voilà, si vous voulez découvrir des œuvres un peu... Après Haunting of Hill House de Mike Flanagan, je vous conseille celui-là et Oculus, qui pour le coup parle pas du tout de voyance, mais ces deux films-là sont vachement bien. Toi, je crois que tu avais préféré Ne t'endors pas, si je me souviens bien.
J'ai beaucoup aimé Before I Wake, ouais, en effet. C'est vrai que Ouija les origines, c'est pas celui dont je me rappelle le plus. Je me rappelle que j'ai été étonné, parce que j'avais vu le précédent, et que j'ai été étonné de voir un Ouija les origines qui était bien meilleur quand même que les autres films sur les planches Ouija qu'on a eu ces dernières années, qui sont rarement, rarement flamboyants. Mais oui, c'est vrai que Before I Wake, c'est un de ceux que j'ai préférés. Ouais.
Et pour terminer, une dernière recommandation dans le style fin du monde cette fois. À force de taper fin du monde en faisant mes recherches sur Baba Vanga, J'ai fini par tomber sur un truc sur Google que je ne connaissais pas, qui est la collapsologie. Alors, la collapsologie, qui n'est pas une discipline scientifique reconnue, mais qui est en
Non.
fait. Alors, pour le dire globalement, j'ai pris quelques notes pour essayer de ne pas dire trop de bêtises. C'est en quelque sorte l'étude de l'effondrement de la civilisation industrielle et potentiellement de qu'est-ce qui va se passer après. Alors c'est intéressant, c'est une discipline donc non reconnue mais qui est donc transdisciplinaire. Donc ça va chercher du côté de l'écologie, de l'agroéconomie, ça va chercher du côté de l'économie, enfin ça va chercher un petit peu partout pour essayer de voir comment notre société va s'effondrer, ce qui est un programme assez gai, n'est-ce pas?
Ouais, c'est un des trucs qui marche bien sur Twitter ou même dans beaucoup d'articles au final sur la presse web de dire ceci est un signe de fin de civilisation, ce genre de choses-là. Donc oui, ça, tout ça, ça rentre un peu dans l'ordre de la collapsologie.
Voilà, c'est représenté par plusieurs personnes qui sont assez médiatiques d'ailleurs, qui vont régulièrement dans les médias, notamment Pablo Servigne qui a un petit peu lancé le truc avec un de ses livres sur l'effondrement de la civilisation. Moi, je voulais avoir un avis un petit peu plus général sur la question puisque je découvrais, je ne savais pas ce que c'était. Et si vous voulez découvrir, moi je n'ai toujours pas d'avis ferme sur la question, hein, mais je trouvais ça intéressant de découvrir qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, de découvrir notamment que c'est pas récent, comme on pourrait le croire, ça se base sur des travaux beaucoup plus anciens. Et pour ça, je vous conseille Le Tour du Monde des Idées, qui est donc une émission de France Culture, une pastille de 5 minutes, une chronique. Et il y a eu une série de 3 chroniques consacrées à la collapsologie qui dit qu'est-ce que c'est aujourd'hui, de quoi ça s'inspire et quels sont les opposants de la collapsologie, puisqu'évidemment il y en a. Donc voilà, je trouvais ça, je trouvais que c'était un sujet à explorer sur le thème de la fin du monde qui pouvait être intéressant.
Eh bien écoute, quant à moi, je vais recommander alors... Trigger Warning, c'était ma série préférée de 2019, et je pense que ça a été la série préférée de 2019 de beaucoup de gens qui l'ont vue, puisque je vais vous parler de Tchernobyl. Alors je sais, la ville de Tchernobyl, ça se situe en Ukraine, c'est pas en Russie, mais les deux ont fait partie de l'Union soviétique, et une partie de l'intrigue se déroule en Russie, donc voilà, c'est l'Union soviétique, le thème. Et Tchernobyl, c'est une mini-série, déjà coproduite par HBO et Sky, qui a été diffusé en mai 2019, à la fois sur HBO et sur Sky, et qui est d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, la première collaboration entre les deux networks, et qui parle évidemment de l'accident nucléaire qui est survenu en avril 1986, le 26 avril 1986, si je dis pas de bêtises. C'est une mini-série parce qu'il y a, entre guillemets, que 5 épisodes de 1 heure ou plus. Les 5 ont été écrits par Craig Mazin, alors... C'est marrant parce que le nom de l'auteur me disait pas grand-chose, donc je suis allé voir, je me dis qu'est-ce qu'il a écrit, parce qu'il a reçu l'Emmy Award 2019 du meilleur scénario, puis la série est admirablement écrite, et je me retrouve à voir que Craig Mazin a officié comme scénariste sur Scary Movie 3 et 4, et sur Very Bad Trip 2 et 3. Alors c'est pas le seul truc qu'il a fait, mais ses principaux faits d'armes. Alors je me dis, tiens, c'est marrant que j'ai vu ça après avoir vu la série, parce que j'y serais sans doute allé avec un petit préjugé. Encore que, si je dis pas de bêtises, Scary Movie 3 ou 4, il me semble qu'il y en a un des deux, c'est celui qui reprend 8 Mile, qui parodie 8 Mile.
C'est le
Et
3, je crois.
c'est le 3, et je m'en souviens plus du tout, mais je me souviens que j'avais un peu plus rigolé devant celui-là que devant les autres, donc voilà. Les 5 épisodes ont été réalisés par Johan Renck, alors qui est surtout connu pour qui vient du monde du clip musical et qui a réalisé quelques épisodes de grandes séries télé quand même, hein, Breaking Bad, The Walking Dead, on en parlait, Bates Motel, il a aussi réalisé pour Bates Motel. Au casting, on a Jared Harris, alors qui joue dans The Expanse. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est chef des terroristes dans The Expanse, qui est T'es aussi l'acteur principal de la saison 1 de The Terror, quand même.
Tout de
Et bah
même.
oui, et oui, c'est le capitaine d'un des deux navires. Et là, il joue Jared Harris, il joue Valéry Legasov, qui est un mec alors qui existait, et c'est ça aussi qui est fort, c'est que la série se base non seulement se base sur les événements de Tchernobyl, mais en plus, il va y avoir un énorme travail documentaire pour essayer de rendre les événements crédibles. Et il joue du coup Valéry Legasov qui a existé et qui est un mec reconnu dans le domaine du nucléaire, on va dire, dans la partie scientifique théorique du domaine du nucléaire. C'est un pan dans le domaine et c'est lui qu'on va suivre, ça va être principalement l'acteur principal, on va dire, de la série. Il est accompagné de Stellan Skarsgård, alors qui est un, pour le coup, lui, un acteur très, très, beaucoup plus cinéma, très connu, qui joue le vice-président du Conseil des ministres, qui va être au début plutôt un opposant de Valéry Legasov, qui a ben, notamment joué dans cet acteur dans pas mal de films de Lars von Trier, qu'on a moins l'habitude de voir dans des séries d'ailleurs. Et troisième personne du trio principal, disons Emily Watson, jouée par Emily Watson, qui joue Yuliana Komunik, qui est un personnage qui, elle, pour le coup, n'a pas existé en vrai, mais qui représente, il y a des petites pastilles à chaque fin d'épisode qui expliquent un petit peu comment ils ont écrit la série, qui représente, on va dire, une grande partie de la communauté scientifique qui a appuyé Legasov. Donc plutôt que de faire tout un tas de personnages auxquels on ne pourrait pas s'attacher, ils ont condenser tout ça en un personnage qui est joué par Emily Watson, qui est excellente. Mais en fait, tout ça ne sert à rien, Mathias. Tout ça ne sert à rien. On se fout de cette fiche technique. On se fout de qui a écrit, qui a réalisé et qui joue dedans. Parce que franchement, quelle putain de série. C'est incroyable. J'ai attaqué ça. J'ai fait la bêtise d'attaquer ça un soir à minuit. Je l'ai regretté parce que j'ai regardé trois épisodes d'affilée, plus d'une heure, donc je terminais à 3h30 du matin, et si j'avais pu, j'aurais regardé les cinq sans m'endormir. Parce que, quelle incroyable série. C'est une série qui va raconter, on va dire, plutôt le damage control autour de la catastrophe. La série va commencer par l'explosion, il va pas y avoir forcément une montée en tension monumentale autour de l'événement, de la catastrophe, mais ça va être sur le damage control, et on est en pleine guerre froide, donc même si on est plutôt en fin de guerre froide, mais il faut pas perdre la face à l'international, et ça va être, la série va se concentrer autour de ces thèmes-là, autour du thème du mensonge, beaucoup. C'est pas forcément une série, si j'en crois ce qu'a dit l'auteur de la série, c'est pas forcément une série qui vise à critiquer le nucléaire, mais c'est une série qui vise à critiquer, on va dire, le mensonge et l'opacité qu'il peut y avoir autour du fonctionnement administratif, autour des centrales nucléaires, autour de beaucoup de choses. Et finalement, c'est une série qui est extrêmement, qui dit beaucoup de choses sur le monde actuel. Genre, sur le monde en 2019, c'est une série, en 2020 maintenant, c'est une série qui dit beaucoup de choses parce que il y a tout ce truc de post-vérité, il y a tout ce truc d'arranger par le discours la réalité pour la faire correspondre à d'autres choses, qui est représentée et qui, dans la série montre les risques de tout ça, en fait. La série montre les risques du mensonge, montre le risque de cacher la vérité et les risques humains que ça peut engendrer. Alors, ce que je me disais, c'est de la fiction, mais c'est ultra bien documenté. Le scénariste a écrit la série pendant 5 ans, a bossé sur la documentation pendant 5 ans pour arriver à produire un récit crédible. Et c'est une série qui met en avant aussi les gens ordinaires qu'il y a eu autour de la catastrophe, qui ont été victimes parfois sans le savoir parce qu'ils n'étaient pas informés, qui ont été victimes de la catastrophe. C'est une série dramatique, historique et dramatique, qui est ultra forte, qui en devient franchement, à certains moments des épisodes, franchement difficiles à regarder, parce que on voit tout le drame humain, toutes les centaines de milliers de personnes qui ont été affectées par cette catastrophe. Donc c'est une fabuleuse démonstration de la connerie humaine, en fait, et de ce que l'ego peut faire, l'ego de certains peut faire. Et du coup, je peux que la conseiller. J'avais peur parfois que ça verse un peu dans le sensationnalisme, à certains moments, certains plans. Mais en fait, c'est des images qui sont impressionnantes, mais le côté impressionnant sert vraiment le propos. C'est-à-dire, c'est pas sensationnaliste, c'est pas gratuit. Et moi qui connaissais pas bien, finalement, la catastrophe de Tchernobyl, qui ne connaissait pas forcément bien le déroulement, ça permet aussi quand même, même si ça reste de la fiction, faut rappeler que ça reste de la fiction, ça permet quand même d'avoir des informations sur le pourquoi du comment, le type de réacteur utilisé, pourquoi ce type de réacteur était défaillant, quelle a été la chaîne de décision, c'est ça qui est important, la chaîne de décision qui a mené à la catastrophe. Donc c'est une série, si vous avez le temps, et si vous avez OCS aussi, parce que je crois que c'est disponible surtout sur OCS en France. Je ne peux que la conseiller parce que c'est une série qui prend cet événement qui a eu lieu en 86 et qui dit beaucoup de choses sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc je ne peux que la conseiller et vivement, vivement recommander.
Puis elle est tout en haut de ton top série 2019, ce que j'ai
Oui.
vu passer sur Twitter, tout en haut.
Tout en
Donc
haut
gage de qualité.
et suivi de très près, si je peux placer un mot, parce qu'il y a deux séries cette année qui ont eu, on va dire, qui ont un impact politique, qui ont un propos politique vraiment très intéressant. Il y a Tchernobyl et il y a Years and Years. Years and Years qui n'a absolument rien à voir, c'est une série sur de mini-anticipation sur la décennie à venir, des potentiels effets du Brexit et des politiques actuelles sur une famille anglaise. Et ces deux séries, Tchernobyl et Years and Years, que je recommande, pas seulement pour les qualités esthétiques qu'elles pourraient avoir, elles les ont, mais c'est aussi et surtout parce qu'elles peuvent donner aussi des armes intellectuelles pour comprendre le monde actuel, et ça, bah, on peut pas demander plus à une œuvre culturelle, quoi, de fournir des armes intellectuelles comme ça pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Donc ouais, les deux sont vivement recommandés.
C'est sur cette dernière recommandation qu'on va clôturer cet épisode du Bureau des Mystères. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @BDMlePodcast, sur Facebook, la page Charles et Mathias, sur notre Discord également, le lien est sans doute dans la description de cet épisode. Et puis vous pouvez également nous retrouver prochainement dans Inspiré de faits réels pour un nouveau numéro. Et en attendant, et bien écoutez, on vous embrasse.